Bonjour à tous. Donc Philippe Vincent, moi je suis directeur des filières chez Soufflet Agriculture, donc en charge de travailler, négocier les cahiers des charges avec les clients utilisateurs et de déployer les démarches filières auprès des agriculteurs.
Bonjour, Anne Trombini, directrice du mouvement pour une agriculture du vivant. Nous, on rassemble l'ensemble des parties prenantes de l'agriculture et de l'alimentation pour accélérer cette transition, construire des outils et sécuriser les agriculteurs. On y reviendra tout à l'heure.
Bonjour, je suis Eddy Fougier, je suis politologue. Je n'ai absolument rien à voir avec ni la transition agricole ni alimentaire, mais un petit peu avec la transition sociétale que j'essaie d'analyser, donc notamment les rapports entre la société et l'agriculture.
Bonjour à tous, donc François Arnoux, agriculteur dans le sud Vendée. Je suis en production de céréales uniquement et aussi spécialisé en production de semences.
Bonjour, Maxime Bécu, donc responsable R&D de BIAPI. Donc BIAPI propose des solutions d'agriculture de précision donc qui ont en jeu donc d'aider les agriculteurs dans leur amélioration de leur technique agricole.
Merci pour ces présentations. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer à chacun de nous expliquer en quelques minutes, avec votre casquette, votre rôle. Hein, on a une belle diversité des acteurs qui sont dans l'exploitation ou autour pour l'aider sur la transition. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les enjeux? De quoi on parle quand on parle de transition agricole à faible impact environnemental? Concrètement, comment ça se met en place? Et pour introduire cette discussion, je proposerai à Eddy Fougier, donc, qui est politologue et qui étudie la relation entre la société civile et l'agriculture, de nous faire un petit pitch sur quelle est la perception par la société civile de l'agriculture, de la relation à l'environnement, quelles sont les attentes et en quoi ça peut éventuellement driver une transition.
Merci beaucoup. Alors, cela vient d'être dit, la société a des demandes sur la transition environnementale. On n'en sait rien, en fait. Donc, je ne vais pas casser l'ambiance, mais quelques éléments, je dirais, d'ordre méthodologique sur les capteurs qu'on peut avoir, puisqu'on est un petit peu dans la tech, donc on met des capteurs. Sur la société, ce n'est pas simple de savoir comment... on peut évaluer la perception de la société. Alors, je m'explique. Déjà, faisons un peu une distinction entre la société et la société civile. La société civile, ça va être un certain nombre d'associations, de collectifs qui ont un agenda, qui ont des demandes, et ça n'a pas nécessairement à voir avec le reste de la société. Et au sein de cette société, en tant que telle, je parle de la société française, la caractéristique, on la connaît, elle a bien été documentée, c'est la fragmentation extrême de cette société, avec des catégories qui sont sensibilisées à la question environnementale, à la question climatique, qui sont très minoritaires, et puis des catégories qui s'en foutent royalement. Donc, il faut être clair. Et puis, on reviendra sur une notion qui est très importante sur le consentement à payer, et qui est, à mon avis, la notion clé par rapport à cette transition qui est espérée par une partie de la société.
Vous êtes en mesure de chiffrer le pourcentage relatif de ces différentes catégories?
Ça, c'est dur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais je vais dérouler et puis on pourra éventuellement tenter d'évaluer en gros qui sont les transitionnistes. Alors, quelques éléments. Déjà, ce qui est très compliqué à évaluer, c'est ce que pensent les Français. Pour une raison assez simple... On regarde les enquêtes d'opinion, effectivement, on leur demande est-ce que protéger la planète, les animaux, la santé des Français et le revenu des agriculteurs, c'est bien? Ils vont dire oui. Est-ce qu'il faut supprimer les produits dangereux? Ils vont dire oui. Bon, donc ça n'a vraiment aucun intérêt en tant que tel, parce que les questions qui sont les plus intéressantes, c'est, il y a trois enquêtes, deux qui ont été publiées et une qui n'a pas été publiée, qui le prouve depuis deux ans, c'est la question de la connaissance de l'agriculture. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont une très faible connaissance de l'agriculture. On va pas jeter la pierre. Si on leur demande la connaissance technique du nucléaire civil ou de la politique étrangère iranienne, ça sera la même chose. Bon. Mais il n'empêche qu'ils ont un avis. Alors juste quelques chiffres, sans vous abreuver de chiffres par rapport à ça. Quand on leur demande « Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la transition agroécologique ?», il n'y a que 17% des Français qui peuvent y répondre. Et l'agriculture régénératrice, il y en a 10%. Entre nous, je trouve ça énorme. Énorme, 10%. Donc, ce n'est pas uniquement est-ce que vous avez entendu parler de ce terme, c'est est-ce que vous pouvez définir ce que c'est. Donc, on est plus sur du préjugé que sur une opinion basée sur une connaissance. Et en ce qui concerne ces préjugés, effectivement, il y a des préjugés très favorables par rapport aux agriculteurs. Il y a des préjugés aussi très favorables par rapport à l'agroécologie. C'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant. Il y a 17% des Français qui savent ce que c'est, mais il y a 80% qui trouvent ça bien. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent dans l'analyse que l'on peut en faire. Et quand on leur demande aussi, c'est pour ça que je demande à être prudent, on est sur du déclaratif. C'est-à-dire la question typique, c'est êtes-vous prêt à payer plus pour assurer un revenu décent aux producteurs ? Et les gens disent oui. Bon, ça n'a aucun... aucun impact d'achat sur la réalité, puisqu'on voit que sur le bio, sur les circuits courts qui sont plébiscités dans les enquêtes d'opinion, on a tendance à voir depuis quelques mois que ces marchés sont en baisse. Ouais. Donc il y a un élément dont il faut tenir compte, outre la fragmentation de la société, c'est la fragmentation des Français eux-mêmes, entre effectivement la partie citoyenne qui se veut vertueuse, effectivement c'est cette partie-là qui permet de répondre à des sondages et qui veut le meilleur pour la planète, pour l'Ukraine, pour notre santé, pour la santé de nos enfants, etc., etc. Et puis, il y a le consommateur, lui, qui est plutôt enclin à chercher la rapidité et l'efficacité, qui a un magasin près de chez lui, une appli, et le client qui va regarder les prix et les promotions. Et le mangeur qui a encore d'autres, qui va chercher plutôt quelque chose de bon. Et effectivement, je pense que... les acteurs économiques, lorsqu'ils parlent d'attentes sociétales, ont le tort sans aucun doute de s'en tenir à deux choses. Le point de vue du citoyen et pas celui du client. Et celui-là, effectivement, veut du bio, des circuits courts, du flexitarisme. Le mangeur, il veut pas ça, nécessairement. Et le client encore moins. Et on a tendance à confondre aussi le bruit de fond médiatique, en gros, BFM, Hanouna, Twitter, et la réalité de la société. Et la réalité de la société est très loin. C'est-à-dire, juste un exemple qui n'a rien d'alimentaire, le woke, qui obsède certains dans l'espace public, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. Donc, il faut être très prudent en la matière. Et la conséquence de tout ça... et juste sur la question des jeunes aussi, les jeunes sont tous sensibilisés à l'environnement, certains, et encore, mais parce qu'ils peuvent avoir des comportements qui ne sont pas nécessairement conformes à leur sensibilité, d'autres s'en foutent royalement. Ceux qui font des rodéos urbains et qui sont des fans de tuning et qui mangent chez Otakos, ceux-là, ils sont nombreux, ils ne sont pas très, très sensibles à l'environnement. Donc, quelle conclusion, pour ne pas prendre toute la place, je pense qu'il faut être prudent, encore une fois, sur ces attentes sociétales, ne pas s'en tenir uniquement au point de vue du citoyen, mais répondre aussi et avant tout au point de vue du client, du mangeur, en l'occurrence, sans offusquer, sans offenser la partie citoyenne en nous, ce qui n'est pas très simple. Et je pense aussi qu'il ne faut pas trop se focaliser sur ces attentes sociétales et être dans une logique plutôt d'offre qui va un petit peu influencer la demande. Donc, en gros, une logique du nudge, quoi, pour être donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire, mais j'ai tendance encore une fois à me méfier de cette notion d'attente sociétale sur laquelle les acteurs économiques passent très vite en disant bon, la société veut ça, il y a la pression sociétale, il y a la demande sociétale, donc on va faire ça, certes, mais je pense que les acteurs économiques doivent prendre en compte d'autres contraintes, et les contraintes climatiques ou géopolitiques sont particulièrement fortes en ce moment. Et ne pas se focaliser uniquement sur le citoyen vertueux qui, une fois en rayon, fait tout autre chose.
Merci beaucoup, Eddy, pour cette synthèse. François Arnoux, vous êtes agriculteur, producteur en grande culture, donc principalement des céréales en Vendée. Comment ça se passe concrètement dans votre exploitation agricole ? Comment vous percevez cette demande, cette pression éventuelle de la société ou pas ? Et vous, dans votre exploitation, qu'est-ce que ça veut dire gérer en même temps production, pragmatisme et environnement ?
Donc déjà en préambule, je partage complètement l'analyse que vient de faire Eddy Fougier, et c'est vraiment ce qui me guide un peu tous les jours, c'est-à-dire de ne pas céder à cette soi-disant demande sociétale. Et donc, du coup, mon système ne cède pas à cette pression. Donc, je suis donc en conventionnel. En conventionnel, j'aime bien dire optimisé ou raisonné. C'est-à-dire qu'on essaie sur nos exploitations, d'ailleurs ce qui représente quand même une grosse part des exploitations agricoles, hein, je n'ai rien d'original, bien au contraire, c'est vraiment la grosse part des exploitations agricoles aujourd'hui en France. Donc en conventionnel, c'est-à-dire que j'utilise des produits, des engrais, des phytosanitaires, des médicaments des plantes, j'aime bien dire ça, et raisonné, c'est-à-dire qu'on utilise un maximum d'outils d'aide à la décision qui nous permettent d'affiner nos pratiques et justement de répondre à ce besoin de protection de l'environnement. Donc concrètement, je suis en production donc de céréales. J'ai 11 productions sur l'exploitation. Donc du blé tendre pour faire de la farine, du blé dur pour faire des pâtes, de la semoule des pâtes, du tournesol, du colza pour faire de l'huile, de la luzerne, du pois chiche et... j'en oublie probablement, et en tout bon vendéen, de la mogette, des haricots blancs, évidemment, pour manger avec du jambon. Concrètement, déjà, quand on voit sur cette exploitation, j'ai 11 cultures. Donc, ça veut dire qu'on essaye d'allonger les rotations pour avoir des cycles plus longs entre les différentes cultures, pour pallier notamment aux adventices, quand on revient trop souvent sur avec les mêmes cultures. On utilise les mêmes produits, on a des phénomènes de résistance et ça devient compliqué ensuite de les détruire. Donc en allongeant les rotations, on esquive déjà ce phénomène. On a introduit aussi les légumineuses depuis quelques temps. C'était connu depuis longtemps, mais on ne le faisait pas forcément. Et là, donc, on s'adapte à ce besoin. Donc on a de la production de luzerne, en l'occurrence de la production de luzerne semences, qui reste présente donc 3 ans minimum sur le terrain sans qu'on le travaille et qui a énormément de vertus pour la structure du sol, pour capter l'azote de l'air et également par rapport aux adventices. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ce type de culture sur nos exploitations.
Et juste pour rappeler, peut-être les légumineuses permettent d'apporter moins d'engrais minéral azoté, donc derrière de recourir à l'agronomie et à l'ingénierie des plantes pour faire ce que la chimie ferait par ailleurs. Des techniques d'optimisation de vos cultures.
Exactement. Donc, on n'utilise carrément pas d'engrais, ni organique, ni minéral sur ce genre de culture. Ça fait déjà longtemps qu'on est, en plus de tout ça, donc, sur l'utilisation des outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Donc, c'est surtout des outils qui utilisent le satellite pour connaître dans nos cultures, dans nos parcelles, l'observation des cultures en direct. Donc concrètement, par exemple, c'est des outils pour adapter la fertilisation. Donc en ce moment, par exemple, quand les plantes commencent à pousser, les satellites passent au-dessus de nos parcelles et sont capables de détecter les zones qui sont plus ou moins développées et qui nécessitent plus ou moins d'azote, d'engrais, d'une manière générale. On a les outils derrière ça qui nous permettent d'importer la bonne dose au bon endroit. Et quand je dis ça, c'est vraiment de façon très fine. Hein, on est de l'ordre d'une dizaine de mètres. Hein, donc, c'est quand même très fin. Et donc, il y a des zones où on met 100, il y a des zones où on met 80, il y a des zones où on met 120. Ce qui fait qu'au global, on en met moins. Et surtout, on la met au bon endroit, à la bonne dose. Donc, ça, c'est important. Et puis, ça, c'est sur ce qui se passe.
Excuse-moi, la bonne dose, ça veut dire qu'un maximum de ce qui est apporté va être absorbé par la plante et on va minimiser les pertes dans l'environnement. D'accord. Donc la meilleure manière de limiter l'impact sur l'environnement, grâce aux outils digitaux, ces petits logiciels d'aide à la décision.
La finalité, c'est exactement ça, c'est de répondre précisément aux besoins de la plante. Mais ça, tout ça, intra-parcellaire, à l'intérieur de la parcelle. Et puis ça, c'est ce qu'on voit. Et je suis très attaché à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sol. On en reparlera tout à l'heure donc avec BIAPI, donc cartographier toutes nos parcelles en fait. On est reparti des années des cartographies des années 50, donc où c'était très morcelé. Chaque agriculteur avait ses pratiques, fumier, pas fumier. Chacun avait ses pratiques. Et on retrouve toutes ces zones aujourd'hui dans les parcelles, hein, même 70 ans après, on peut retrouver des historiques de ces parcelles. Et grâce à tout ce qu'on a pu faire dans ce zonage, eh bien, on connaît aujourd'hui parfaitement, à l'échelle de ces micro-parcelles de l'époque, ce qui se passe. Et ce qui fait qu'en fonction de tout ce qui a été mesuré, on y reviendra tout à l'heure, tout ce qui a été mesuré, eh bien, on apporte là aussi la bonne dose. Et on va même maintenant jusqu'à connaître exactement le potentiel de ces petites zones et donc de pouvoir même changer la densité, c'est-à-dire de la quantité de semences, de quantité de pieds que l'on peut semer sur ces zones-là. Donc on jardine en fait. Hein. Alors on parle souvent des grandes parcelles et ainsi de suite, mais en fait on jardine sur ces grandes parcelles par rapport à tous ces outils qui sont mis à notre disposition.
Et vous avez parlé du sol, donc vous, ça, vous considérez que c'est un actif de production qu'il faut. Ce genre d'outils, ce genre d'approche vous permet d'optimiser, d'améliorer le fonctionnement du sol à long terme?
Alors, effectivement, par rapport au sujet qu'on a à traiter, c'est évidemment l'objectif premier, c'est de préserver le sol. C'est notre outil de travail. Et donc, évidemment, qu'on fait tout pour préserver notre potentiel, notre support de travail qui nous permet évidemment de sortir les meilleurs rendements, d'optimiser le maximum, d'optimiser le potentiel de toutes ces parcelles.
Merci François. Donc une exploitation agricole optimisée, un recours maximisé aux légumineuses, aux couverts d'interculture. Vous n'en avez pas parlé, mais vous avez aussi beaucoup de cultures à bas niveau d'intrants qui permettent d'apporter moins de chimie. Donc une optimisation de la gestion de votre exploitation. Merci beaucoup. Je propose maintenant de passer la parole à Philippe Vincent, qui est au cœur d'un organisme. Philippe va nous expliquer ce qu'il fait et en quoi il
est d'un négoce filiale d'une autre coopérative.
Exactement. Philippe va nous expliquer en quoi il est au cœur du déploiement à grande échelle de ces sujets.
Donc voilà. Donc moi je m'occupe chez Souffle Agriculture donc du déploiement des filières. Donc déjà rappeler qu'est-ce que c'est une production en filière. Hein, c'est une production qui est mise en place par l'agriculteur pour répondre à un besoin spécifique. Donc ce qui n'est pas forcément le cas en production conventionnelle. Hein, l'agriculteur ou classique va implanter et ne connaîtra pas forcément le débouché. Quand il est en filière, il sait pour qui il produit. Quel est le cahier des charges de production et comment sera utilisé son grain. Donc si on refait un peu d'historique des filières pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui ces filières permettent d'envisager la transition agricole, les filières ont initialement été mises en place pour répondre à des besoins particuliers en termes de qualité de production, donc autour de variétés particulières qui avaient un peu disparu du marché, ou autour de teneurs en protéines particulières, ou pour des productions avec zéro résidu, par exemple. Donc c'est un peu l'historique. Ensuite, autour de ces productions particulières, c'est greffé la traçabilité pour rassurer le consommateur sur tout ce que l'agriculteur a mis en œuvre pour arriver à cette production. Et puis aujourd'hui, ce que l'on voit dans les filières, et globalement dans l'ensemble des filières ou quasiment, s'intègrent des critères de biodiversité, d'empreinte carbone de la production et de protection de l'eau. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des critères de mesure ou d'impact environnemental qui s'inscrivent dans quasiment toutes les filières. Donc ça veut dire qu'un agriculteur qui est en filière aujourd'hui va participer quelque part à cette transition agricole, donc, y compris s'il est sur une production. Donc, je prends l'exemple de la filière principale que l'on a dans le groupe Soufflet, hein, donc, qui est la filière responsable en blé. C'est 300 000 tonnes aujourd'hui, 40 000 hectares. Donc il y a 3 000 agriculteurs à peu près qui sont impliqués en France dans cette filière. Donc ils vont mettre en œuvre un cahier des charges particulier et on va leur demander un certain nombre d'informations sur la biodiversité. On va mesurer l'empreinte carbone de cette filière, même s'ils ne sont que sur une production. Ça veut dire que déjà l'agriculteur aura été engagé dans la transition au travers de sa production et il pourra ensuite s'intéresser à des démarches à l'échelle au-dessus, on va dire, à l'échelle de l'exploitation, où là, on va regarder une production particulière, mais on va également regarder l'ensemble des autres productions de l'agriculteur, combien de surface agro-environnementale quel est le nombre de cultures cultivées sur son exploitation. Donc on va regarder ça, de façon un peu plus large, et on va mettre en place généralement un cahier des charges sur une production qui est plus pointue. Donc je reprends le cas de la filière Excellence aussi chez le groupe Soufflet. Aujourd'hui, on a 25 agriculteurs qui sont engagés versus les 3000 que l'on a en filière responsable. Bon, là, on est dans une filière haut de gamme avec une farine label rouge et des critères de biodiversité, très très forts.
Donc une farine label rouge répond à une demande client d'un produit, avec un moindre impact environnemental et ça permet d'avoir une traction marché et derrière de définir un cahier des charges plus vertueux.
Tout à fait. Donc démarche à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation et on va encore plus loin des démarches, au niveau du système d'exploitation où là, on va s'intéresser plus à des agriculteurs qui ont vraiment fait le choix de la transition et qui sont partis vers des systèmes d'ACS, d'agriculture de conservation des sols ou d'agriculture régénérative. Et là, j'ai tendance à le dire de façon peut-être un peu caricaturale, mais pour l'agriculteur, c'est une vraie conversion. Je dirais, comme l'agriculteur fait le choix d'aller sur du bio, je dirais, quand il va sur l'agriculture de conservation des sols, c'est une vraie remise en question de ses habitudes. Il change complètement son mode de fonctionnement. Et ça, je dirais, c'est l'étape supplémentaire, je dirais. Et aujourd'hui, on va chercher à valoriser aussi les agriculteurs qui ont fait le choix de la transition de leur système d'exploitation. Donc, tout d'abord, en essayant de les accompagner, donc en formant les équipes agronomiques de l'entreprise, en formant les techniciens, en mettant en place de l'expérimentation pour donner des références à ces agriculteurs qui sont un peu, pour certains, dans le brouillard, hein, parce qu'ils ne sont pas très, très nombreux, même s'ils sont de... Ça se développe, mais... Ils n'ont pas forcément les référentiels. Et puis, on va également chercher, au travers de filières, à trouver des valorisations, hein, donc à faire en sorte que les productions qui sont issues de ces agriculteurs en ACS trouvent, je dirais, des valorisations. Et donc, pour créer ces valorisations, il faut prouver ou montrer, montrer aux clients que l'agriculteur a mis en œuvre un certain nombre de pratiques. Donc, on essaie de travailler avec des référentiels, donc des référentiels d'agriculture de conservation des sols. Hein, donc, on travaille en particulier avec PADV, donc qui va, j'irai un peu cadrer ou apporter des références qui permettront de mesurer le niveau d'engagement de l'agriculteur dans l'agriculture de conservation des sols, et puis également de le prouver aux clients en aval. Et donc, on arrivera comme ça à créer des filières et donc à valoriser les efforts de l'agriculteur dans le choix de leur système d'exploitation. Donc, voilà un petit peu comment s'articulent les démarches filières dans le groupe Soufflé, et plus généralement en France, on est sur ce niveau, sur ce schéma.
Merci Philippe, et c'est une très bonne transition pour Anne qui nous expliquera. Mais juste avant, je voudrais juste souligner un point qui est peut-être pas clair pour tout le monde. Vous avez parlé de démarches de filière et puis différentes gradations de la transition environnementale et de la manière de la valoriser. Vous avez parlé de transformation de système. Peut-être un mot sur le fait qu'en fait, une démarche filière, l'approche de base, si je comprends bien, c'est de valoriser une amélioration des pratiques, mais uniquement sur la culture dont la filière est cliente. Et si on veut avoir plus d'exigences, on peut aller vers une transformation totale du système, de toute la rotation, de toute l'exploitation, c'est ça. Il y a différents types de cahiers des charges. Il y a une transition possible dans la transition.
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Je dirais, quand on est à l'échelle de la production ou à l'échelle de la parcelle, déjà, on peut avoir différentes gradations de cahiers des charges en fonction du niveau d'exigence qui est demandé. Et généralement, c'est la valorisation de la parcelle et de la production sur la parcelle. Donc, des efforts, j'y reviendrai tout à l'heure sur la rémunération, mais des efforts sur la parcelle. Après, quand on regarde l'ensemble de l'exploitation, il va falloir regarder comment est-ce que, on accompagne l'agriculteur dans les efforts qu'on lui demande sur l'ensemble de l'exploitation. Et puis, quand on est en agriculture de conservation, c'est la même chose, quoi. Donc, différents niveaux de cahier des charges, différents niveaux d'exigence et donc différents niveaux de rémunération. Mais là, je suis déjà en train de faire ma deuxième partie.
On y reviendra. Merci Philippe. Et Anne, du coup, PADV, du coup, quelle est votre approche et comment vous aidez les agriculteurs, les négoces, les OS à déployer à grande échelle cette transition de la manière la plus vertueuse qui soit?
Merci. En effet, nous, donc on va viser cette reconception du système parce que en fait, l'association a été créée il y a 4 ans par un groupe de fondateurs, un petit groupe, c'était surtout des entreprises de l'agroalimentaire et des agronomes qui avaient pris conscience justement qu'ils étaient un peu à la fin d'un système où justement ces approches par étapes finalement n'avaient pas changé grand-chose en réalité en termes d'impact consommateur et d'impact surtout environnemental et agricole, et qui avait besoin d'un changement de paradigme total pour pouvoir vraiment aller chercher ses bénéfices. Et tout l'enjeu de notre mouvement, c'est de remettre de l'agronomie en fait au cœur des pratiques agricoles et au cœur surtout des filières. Notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas de transition agricole sans transition alimentaire, parce qu'aujourd'hui, la réalité de l'agriculture, on l'a vu, c'est des labels, c'est des cahiers des charges, etc. Et donc, les pratiques agricoles sont très fortement influencées par les prescriptions qui viennent de la société et des attentes consommateurs. Alors que lorsqu'on est agriculteur et qu'on produit, on travaille avec le vivant. Et donc, il y a des principes agronomiques à respecter et que parfois, on peut avoir des injonctions contradictoires. Et tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, pour nous, est de faire comprendre à la société que produire et protéger, c'est inhérent à l'acte de production agricole. Ce n'est pas deux choses qui doivent être opposées, mais qu'en réalité, quand vous regardez une plante qui pousse dans la nature, elle va puiser dans un sol tous les éléments qui lui sont nécessaires. Ensuite, elle va grandir, elle va mourir. Et une partie, notamment dans la forêt, va être restituée au sol. Les feuilles, etc. vont tomber et vont réalimenter la vie du sol pour que ce cycle vertueux recommence. Et ça, c'est la réalité, du coup, d'une production, mais aussi d'une protection de l'environnement, parce que tout ce qui se passe dans ce cycle, finalement, génère tous les bénéfices écosystémiques carbone, biodiversité, eau, etc., dont on entend parler tous les jours. Et donc tout l'enjeu, c'est de remettre de l'agronomie pour que les pratiques agricoles tendent à nouveau vers ce cycle vertueux qui a été un petit peu oublié parce qu'on a donné la priorité à la production après la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir les populations. Donc on a intensifié ça et on a peut-être un petit peu oublié aussi ce cycle du vivant. Donc tout l'enjeu est de revenir à ce cycle du vivant qui n'est pas simple. Et donc il faut accompagner les agriculteurs, évidemment les former, les outiller, leur donner des solutions techniques, mais il va surtout falloir les accompagner, les sécuriser, d'où la nécessité que l'ensemble des parties prenantes de l'agriculture, évidemment donc les acheteurs agroalimentaires, etc., mais aussi les partenaires techniques, les partenaires financiers, soient là avec eux. Et j'insiste sur ce point de transition alimentaire et de reconception du modèle qui est pour nous fondamental. C'est une reconception du modèle agricole, mais alimentaire, parce que quand on comprend ce sujet du vivant et ce sujet du sol, on comprend rapidement qu'il va falloir sortir d'une approche culture. Moi, j'achète du blé pour mon produit biscotte, parce que l'agriculteur, lui, il va raisonner rotation, il va raisonner système. Et ça veut dire qu'on ne peut plus avoir un acheteur qui travaille avec son propre cahier des charges tout seul et qui va l'imposer à un agriculteur. Sinon, l'agriculteur va devoir concilier des attentes différentes pour chacun de ses acheteurs. Et ça, ça ne marche plus parce qu'il ne va pas pouvoir reconcevoir son système si ça fait ça. Et donc, c'est tout l'enjeu de notre mouvement. Aujourd'hui, il y a 750 adhérents, justement, de toutes ces parties prenantes et en particulier 650 agriculteurs, pour construire tous ensemble les outils, les référentiels, les projets, pour que chacun derrière puisse construire ses propres solutions et surtout que on puisse faire dialoguer sur une rotation grande culture l'acheteur de betteraves, l'acheteur de pommes de terre, l'acheteur de blé et que tous ensemble ils se mettent d'accord pour accompagner l'agriculteur.
Donc vous aidez à faire en sorte que les différents clients des différentes cultures de la rotation collaborent entre eux pour accompagner globalement l'exploitation agricole dans une transition qui fait du sens. Parce que si je comprends bien, les approches historiques, quand un seul acteur veut accompagner juste sur sa culture, il y a peut-être des leviers qui sont à mettre ailleurs que dans sa culture et ce n'est pas idéal en termes de transition.
C'est exactement ça, c'est que la culture précédente va influencer la culture concernée et donc il y a bien une approche globale à reconcevoir. On l'a travaillé, on a des agriculteurs par exemple qui travaillent avec Soufflé, qui sont également à Cristal Union parce qu'ils font de la betterave et donc on travaille aussi avec Cristal Union. Les techniciens de chez Soufflé Agriculture et de chez Cristal Union se parlent et on commence à avoir une vision intéressante et surtout aussi un gain de temps. Parce que l'enjeu, il est aussi là, c'est qu'il y a beaucoup de travail pour faire tout ça, et il va falloir, le collectif, il est là aussi pour ça, pour optimiser ensemble les forces. Et là, on parle vraiment de la partie, je dirais, filière, mais on parlera tout à l'heure aussi du financement. C'est la même chose, il faut pouvoir faire converger aujourd'hui l'ensemble des acteurs autour de ces problématiques, autour d'une compréhension partagée, d'objectifs communs et d'indicateurs communs, pour que tout ça s'accélère au bénéfice des agriculteurs.
Donc les solutions, elles ne sont pas uniquement agronomiques, elles sont agronomiques, mais pas que. En fait, il y a tout un modèle à reconstruire autour de l'accompagnement de l'exploitation agricole qu'il faut construire si on veut accélérer cette transition systémique, là, pour le coup.
C'est exactement ça, ça doit être systémique. Il faut construire tout ça, mais avec un préalable qui est de remettre l'agriculteur au centre. Tant qu'on sera sur des approches descendantes de prescription de la société vers l'agriculture, ça ne marchera pas. Donc l'enjeu aussi de cette transition, c'est que l'agriculteur soit au centre du processus de décision, puisse partager ses contraintes, ses problématiques, et qu'il soit entendu et que tout ça, ça soit co-construit. Puisqu'on est, on n'est pas des bisounours, on a bien conscience qu'on vit dans un monde économique avec des contraintes. Et donc il y a un certain nombre de défis devant nous. La route est longue, mais en tout cas l'urgence est là, donc c'est maintenant ou jamais.
Merci Anne. En fin de session, on proposera peut-être à Eddie Fougé de nous faire un retour sur... Ça nous intéressera de savoir à quel point la société, elle a, en tout cas ceux qui expriment un souci pour l'environnement, à quel point ils ont conscience de tous ces enjeux et cette lourdeur de transition à mettre en place. Mais juste avant, donc, Maxime Bécu, qui travaille chez BIAPI. BIAPI, je crois que c'est l'un des fameux outils digitaux dont nous parlait François, qu'il utilise pour optimiser l'apport d'engrais sur ses sols. Maxime, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites et expliquer en quoi, justement, le digital peut aussi être une solution à cette transition vers une agriculture à moindre impact environnemental?
Alors nous, François a déjà un peu introduit le sujet, c'est-à-dire qu'on travaille sur la digitalisation des sols principalement, donc on essaie d'accompagner ça avec d'autres technologies comme la télédétection, mais l'idée c'est déjà d'accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de leur démarche, de leur apporter plus de performance agronomique notamment, et donc du coup on va les aider à mieux digitaliser leur sol, donc d'un point de vue physique, chimique, biologique. Et tout ça va nous permettre de les aider et de les accompagner dans leur pratique, tant d'un point de vue technique, économique, environnemental. Et donc tout ça, si prend par exemple un exemple sur l'azote, qui est quand même un point qu'on a souvent parlé. Alors souvent d'un point de vue pollution de l'eau, etc. Donc maintenant, de plus en plus, on vient jouer sur l'azote d'un point de vue carbone, parce que c'est quand même un des éléments qui est impactant en termes de pollution. Donc ce qu'on vient faire, c'est que au travers de cette connaissance des sols, donc on va pouvoir aider l'agriculteur à mieux valoriser, enfin mieux juger ses potentiels au niveau intraparcellaire et dire bah, dans cette zone-là, bah, on va être moins productif, dans cette zone-là, plus productif. Et bah, on va pouvoir aider l'agriculteur à mettre la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Et donc cet impact-là va avoir directement, en termes de modulation, un impact sur l'aspect carbone, si on peut dire, parce que tout ce qui ne sera pas consommé, c'est tout ce qu'on pourra économiser. Et donc c'est déjà le premier axe sur lequel on va pouvoir valoriser toute cette démarche carbone. Et donc c'est au travers de cette connaissance des sols, parce que, voilà, ce qu'on souhaite, c'est qu'au niveau du monde agricole, on vient de stocker le carbone dans le sol, et donc c'est au travers de la connaissance de ces sols qu'on arrivera bah, forcément à aider l'agriculteur à mieux gérer cette notion de stockage du carbone. Quoi. Pour nous, c'est un axe voilà, premier, la connaissance des sols.
Donc l'intelligence digitale et les outils digitaux au service d'une meilleure connaissance, meilleure compréhension, pour derrière aider l'agriculteur à faire une meilleure agronomie. Vous avez une idée de combien vous pouvez aider à réduire d'azote ou aussi à optimiser la gestion économique de l'exploitation agricole, parce que c'est aussi ça le sujet.
Alors sur la partie azote, on va dire forcément ça dépend de l'hétérogénéité des parcelles, mais on peut se baser en fonction des cultures entre 20 à 50 unités d'azote en fonction des potentiels des sols. Mais voilà, il y a tout un environnement qui va impacter la partie météo, la partie développement végétation, tout ça, c'est des choses qu'il faut mesurer et qu'il faut il faut accompagner les agriculteurs pour mieux maîtriser les différents paramètres environnementaux qui vont permettre de développer la culture.
Merci. En effet, l'azote, hein, je rappelle, l'azote, c'est l'engrais minéral azoté qui est responsable de, en moyenne, 60% des émissions de gaz à effet de serre des exploitations agricoles en grande culture. Donc, c'est un levier majeur pour contribuer à réduire les émissions de l'agriculture. Merci Maxime. Avant de conclure cette session, peut-être un petit retour d'Eddie Fougier, donc qui est notre représentant société civile, peut-être pas son porte-parole, mais son analyste, sur ce qui a été dit.
Alors, juste quelques éléments, parce que je me suis aperçu que je n'avais pas répondu à votre question. En gros, combien de transitionnistes ?
Il n'y a peut-être pas de réponse, alors, connue.
Ce que l'on peut voir dans les enquêtes, effectivement, je suis... sceptique par rapport à ces résultats, mais il faut bien se baser sur quelque chose, ça représente à peu près entre 20 et 25% de la population, en gros. Si l'on regarde différents critères, c'est-à-dire non pas celles et ceux qui sont dans le déclaratif, mais celles et ceux qui sont prêts à prendre des engagements non pas de conversion, mais un petit peu, puisqu'on est dans ce vocabulaire de nature religieuse. Et quand on regarde, par exemple, la proportion d'éco-anxieux ou de personnes qui sont sensibles aux enjeux de décroissance, on est plutôt dans cet ordre-là. Mais ce ne sont pas nécessairement celles et ceux qui sont les plus à même d'être ouverts sur l'aspect de contraintes techniques et de contraintes économiques. Ils sont plutôt dans la logique AMAP, bio, veggie. Donc, c'est peut-être pas le levier sur lequel cette agriculture de conservation des sols, agriculture régénératrice, etc., etc., peut se baser. Et pour le reste de la population, il ne faut pas plaquer sur cette population, pour différents sujets, une vision de nature idéologique. Prenons le cas des vaccins. Effectivement, au départ, on disait « Oh là là, les Français sont anti-vaccins ». En fait, ils étaient pragmatiques, ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont vu que grâce au pass, ils pouvaient aller faire leurs courses. Et donc, de façon très pragmatique, je pense que l'élément clé par rapport à toutes ces transitions, c'est le coût. Et il y a une enquête récente qui montre qu'on leur pose la question « Qui doit payer ?» Et les Français disent « Les filières, l'État, mais pas nous. » Donc là, on est dans le pragmatisme, on n'est pas pour ou contre la transition, pour ou contre les conclusions du rapport du GIEC, on est « Qu'est-ce que ça va me coûter à moi ?» Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et sans aucun doute, et je terminerai par là, le bouquin de Fourquet et de Casselli est assez intéressant sur la perception de la société. L'information principale, c'est qu'on est passé d'une société de production à une société de consommation et de loisirs. Et effectivement, la perception des activités économiques se fait à travers cette idée que on est dans cette logique, qu'est-ce que ça me rapporte à moi, qu'est-ce que ça me coûte, ça c'est la logique de consommation, et la logique récréative, c'est à côté de chez moi, il y a un établissement qui est en train de se monter, ça me dérange, je n'en veux pas. Et donc, effectivement, il y a sans doute un travail d'information à faire de la part des acteurs pour convaincre ce grand public que il y a des contraintes économiques, cela a été dit, des contraintes techniques, et qu'il a intérêt à aller vers cette transition. La question centrale et la question en termes d'acceptabilité sociétale, c'est la question du coût, du prix.